avant de vous présenter donc, les représentants des syndicats et associations qui nous ont fait la gentillesse de venir à cette table ronde. Et puis, je ferai circuler les questions, etc. Je vais lancer les premières interrogations naïves. Donc, je vais le faire par ordre d'à côté de moi, hein, voilà. Donc, pour représenter le syndicat des écrivains de langue française, le SELF, Yves Frémion et Christian Villa, qui est vice-président.
Non, président.
Ah, tu es président. Voilà, on en parle. Ça va. Nous avons même le président du SELF. Donc, on commencera peut-être par rappeler ce qu'est le SELF et dire quelques mots. Pour la charte des auteurs et illustrateurs, Sonia Delmas, voilà, qui était déjà venue, comme Yves, qui nous font le plaisir de revenir à cette table ronde. On pourrait commencer par parler de ce SELF, qui renaît.
J'ai un petit mot à dire, je suis aussi ici comme représentant du droit du CERF.
Ah, d'accord, donc tu es multicasquette.
Voilà.
Voilà. Ben, c'est bien peut-être que tu parles des deux. Donc, président, là, si ce syndicat, il était un petit peu en veille, non ? Vous l'avez réanimé ?
On l'a réanimé, il avait cessé de fonctionner depuis une dizaine d'années, il me semble.
Un peu moins, un peu.
Il y avait très peu d'adhérents, il restait très peu d'adhérents. Et avec le problème de la numérisation et tout, ça a été l'occasion de relancer cette affaire. Bon, à côté, il y a le droit du cerf, qui est une structure informelle, qui a aucun statut particulier, mais qui regroupe quand même pas d'un millier d'auteurs, d'intervenants divers dans l'édition.
Avec une page avec une page Facebook très active où les auteurs parlent, demandent, ça m'est arrivé, modèle. Voilà, c'est vraiment très très actif. Ouais. Quelles sont les activités du SELF en temps normal ?
Le SELF, là, pour l'instant, on est en pleine restructuration, donc on est en train de réécrire les statuts pour les ouvrir davantage qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent, c'est-à-dire on va les ouvrir aussi, on va accepter aussi en dehors de tous les métiers de la création, les éditeurs indépendants, les libraires indépendants.
Ah, très bien.
C'est ce qui est prévu dans les nouveaux statuts. Les chantiers principaux, c'est donc les indisponibles, la numérisation et bientôt la GESA.
Okay, puisqu'on parle de la GESA, ce serait bien, Sonia, que tu puisses nous dire en quelques mots les grandes avancées quand même qui ont été faites ces derniers mois ou l'année dernière. En termes justement de reconnaissance des droits, les animations dans les droits d'auteur pour les auteurs, etc., etc. Un petit medley.
Ah oui, j'ai le mien, j'ai oublié. Bon, la GESA. Donc la GESA, c'est. D'abord, je me représente. Je fais partie de la charte donc des auteurs et illustrateurs jeunesse. Nous sommes plus de 1200 auteurs, illustrateurs et traducteurs. Et nous intervenons aussi beaucoup dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les médiathèques, enfin, etc. Alors, l'avancée dont tu parles, par exemple, c'est que depuis l'année dernière, nous avons le droit, c'est-à-dire les personnes, les auteurs qui sont affiliés au régime de l'AGESA, qui est la caisse de sécurité sociale des auteurs, nous avons le droit de, encore plus près, oui, nous avons le droit d'intervenir dans des classes pour des rencontres. Et nous sommes donc payés en droit d'auteur pour ce genre de rencontre. Voilà. C'est très, très bien, aussi bien pour le diffuseur, c'est-à-dire la personne qui commande, que pour nous. Mais il faut faire très attention parce que ce régime n'est possible que pour les affiliés à la GESA, c'est-à-dire les auteurs qui cotisent à cette sécurité sociale. Parce que tous les auteurs sont assujettis, c'est-à-dire c'est leur éditeur qui paye sa part de sécurité sociale pour eux, mais ça n'ouvre aucun droit aux auteurs. Et il y en a beaucoup qui ne le savent pas et qui se retrouvent au moment de la retraite avec une déception extrêmement amère. Voilà. Voilà l'avancée, c'est quelque chose pour laquelle nous nous sommes vraiment battus.
Alors, on attaque le vif du sujet, Yves. Donc c'est pardon, et je te promets qu'après je te donne ton micro, plus jamais je te le prends. Simplement, ce thème-là, le thème de cette table ronde, reprise des droits, protection des œuvres en ligne, ouvrages indisponibles, c'est toi qui me l'as donné, donc quand on en a discuté au téléphone, en me disant, voilà, c'est une table ronde, c'est la grande préoccupation des auteurs aujourd'hui, c'est celle-là. Donc si tu peux nous tracer un petit peu le portrait, nous dire ce qu'il y a derrière ces mots comme combat d'auteur.
Grosso modo, c'est une loi qui a été votée l'année dernière. J'insiste sur un point, elle a été votée à l'unanimité des deux chambres. C'est assez exceptionnel. Ça veut dire une chose, c'est qu'on ne reviendra pas sur cette loi. Beaucoup de mes camarades pensent qu'on peut. Une loi qui est votée à l'unanimité, les chambres ne reviendront pas dessus. Par contre, dans les décrets qui vont tomber, il y a beaucoup à faire qui permettrait de démanteler non pas la loi, mais démonter les éléments les plus négatifs de cette loi. Alors, les indisponibles, qu'est-ce que c'est? Comme vous savez, dans le droit d'auteur, il y a les livres qui sont sous droit et les livres qui sont dans le domaine public. Un livre qui est dans le domaine public, c'est un livre dont l'auteur est mort depuis plus de 70 ans. Ces livres-là, tout le monde peut en faire ce qu'il veut. Enfin, ce qu'il veut. Tout le monde peut les éditer comme il veut, les utiliser, etc. Ça appartient à la nation. Donc, tout le monde peut s'en emparer, y compris vous, d'ailleurs. Mais avant cette date-là, il y a des droits pour les auteurs de leurs vivants et leurs héritiers, puisque on parle de propriété littéraire. Donc ça se transmet exactement comme n'importe quel patrimoine à ses héritiers, et les héritiers pendant 70 ans ont les mêmes droits qu'avait l'auteur sur ces œuvres-là, aux héritiers à qui parfois les auteurs ont laissé leurs consignes, leurs désirs, et évidemment la gestion de leurs droits, ce qui permet aussi d'ailleurs parfois à des auteurs de continuer à vivre après leur mort, enfin leur œuvre continue à vivre après leur mort parce qu'ils ont des héritiers pour s'en occuper. Il faut toujours penser ça. C'est que si personne ne s'occupe de l'œuvre d'un auteur après sa mort, son œuvre disparaît. Alors, pour les ouvrages qui sont dans le domaine public, la question était réglée depuis longtemps. Par contre, pour les ouvrages qui sont toujours sous droit, qui appartiennent toujours à leurs auteurs, mais qui avaient été édités et dont les ouvrages étaient épuisés depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle les ouvrages indisponibles. Alors, sur ces indisponibles, la loi qui a été votée, grosso modo, pour la résumer rapidement, la loi prévoit que lorsqu'on n'arrive pas à mettre la main sur l'auteur, parce qu'il n'y a pas de fichier général des auteurs quelque part, un éditeur peut rééditer, sans l'autorisation de l'auteur, cet ouvrage, comme il le souhaite, et en particulier y compris l'éditeur qui était l'éditeur d'origine et qui ne l'exploitait plus. Ce qui a posé problème dans cette histoire, c'est que on enlève une partie de ce qu'on appelle le droit moral, c'est-à-dire le droit intellectuel sur une œuvre, c'est-à-dire le droit à un auteur, le droit sur son œuvre, c'est le droit qui dit cet auteur est auteur de cet ouvrage, il est propriétaire de cet ouvrage, il en touche les fruits, et nul ne peut diffuser et encore moins modifier cette œuvre sans son accord. C'est pas seulement pour les livres, hein, c'est toutes les œuvres de l'esprit. Et ce droit moral n'est pas cessible, c'est-à-dire ça ne peut appartenir qu'à l'auteur, on peut le vendre à personne, personne ne peut l'exercer autre que l'auteur, et évidemment c'est ses héritiers, et surtout il est éternel, c'est-à-dire que là il n'y a plus l'histoire de 70 ans après la mort 70 ans après la mort d'un auteur, vous pouvez exploiter son œuvre, mais vous ne pouvez pas la modifier, Vous ne pouvez pas aller contre la volonté éventuellement exprimée par un auteur. Et je conseille à tous les auteurs qui pensent que peut-être un jour ils mourront de mettre leur desiderata par papier et de confier par exemple à une société d'auteurs pour qu'on le respecte. En tout cas, moi je vais le faire. Et donc, comme le droit moral est battu en brèche depuis une cinquantaine d'années de tous les côtés, en ce moment beaucoup par le monde du numérique et aussi par le monde qui est sous influence anglo-saxonne, parce qu'il n'existe pas dans le monde anglo-saxon. Dans le monde anglo-saxon, il n'y a pas de droit moral. Vous pouvez absolument, si vous achetez une œuvre, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez changer la fin, vous pouvez mettre en couleur un film, par exemple, comme ça a été fait. Bon. Et donc, sous ces différentes pressions, le droit moral est attaqué de tous les côtés. Et donc, du côté auteur, on souhaite vraiment qu'aucune amputation de ce droit ne puisse se faire. Donc, on est évidemment très réticents, non pas sur l'ensemble de la loi, mais sur ce point-là, sur le fait qu'on puisse éditer un auteur vivant sans son autorisation. Ça, c'est pour nous, c'est monstrueux. Et évidemment, ça a beaucoup joué, ça a joué un rôle important dans la relance du syndicat, parce que c'est une des questions sur lesquelles on a senti qu'il fallait retrouver une force un peu syndicale. Il n'y avait pratiquement plus de syndicats d'auteurs, il y avait des sociétés d'auteurs, des associations de défense, qui font d'ailleurs du très bon travail. Il y avait le Conseil permanent des écrivains, évidemment, mais des forces syndicales, il y avait. Peut-être que tu veux compléter là-dessus, parce que je ne sais pas si j'ai pas... J'essaie de ne pas faire trop compliqué,
ouais.
Parce que c'est très technique, mais...
Bon, moi, je reprends un peu sur les indisponibles. Le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui ont récupéré leurs droits, qui ont eu droit à une lettre de leur éditeur et tout, et rien ne dit que ces romans ne vont pas être... puisque c'est la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, qui se charge de cette numérisation. Rien ne dit que ces ouvrages-là ne vont pas être republiés par eux, sans première personne. C'est à charge des auteurs d'aller voir sur des listes publiées si les leurs y sont. Ils ont 6 mois pour refuser cette numérisation. Et s'ils ne se manifestent pas au bout de 6 mois, ils ont pratiquement plus rien à dire. Bon, après, il y a un système de répartition qui n'est pas encore bien défini, qui doit entrer dans le cadre des décrets. Mais on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Le DDS demande que ce soit une société d'auteurs qui gère ça. Apparemment, ce sera plutôt une société paritaire, c'est-à-dire auteur-éditeur. Et il faut voir, quoi. Il y a encore des tas de choses à négocier, si possible, là-dessus.
Est-ce que tu me permets d'intervenir là, parce que je vois une petite transition. Justement, pour éviter tous ces désagréments, vous pouvez, en tant qu'auteur, essayer de récupérer vos droits, de les reprendre.
Il faut même.
Il faut les reprendre. Ça, c'est ce qu'on dit à tous nos adhérents. Et quand je dis nous, je parle ici aussi, comme Yves, au nom du Conseil permanent des écrivains, dont aussi bien la charte que le self font partie. Voilà. Alors, nous appelons tous les auteurs de livres épuisés, c'est-à-dire indisponibles, à récupérer, reprendre leurs droits. Alors, en tant qu'auteur, on est là, on dit, mais comment on fait ? Et pour éviter que les gens baissent les bras, parce qu'on se trouve quand même devant un éditeur assez puissant, comment est-ce qu'on procède très légalement et efficacement le CPE et toutes ces associations membres ont rédigé un vade-mecum. Voilà. Vous pouvez le trouver, par exemple, alors vous le trouvez sur le site de la Société des gens de lettres, qui fait partie du CPE, tout comme d'autres sociétés, et vous pouvez également trouver cet appel, vos livres sont épuisés, vous pouvez reprendre vos droits sur le site de la charte, qui est www.la-charte, où est-ce que je l'ai ? Attendez. Alors, www.lacharte.fr. Voilà. Et vous pouvez télécharger ce document, qui est très précieux parce qu'il est accompagné de lettres modèles, des lettres que vous devez envoyer, lettres recommandées avec accusé de réception, à votre éditeur ou vos éditeurs dans cette démarche-là. Voilà, et c'est plein de conseils qui sont très utiles. Et surtout, c'est un mode d'emploi qui a été composé par toutes les sociétés d'auteurs, aussi bien de l'écrit que
du dessin,
multimédia, etc.
Photographe, traducteur, voilà.
Etc. Oui.
Oui, juste un problème pour récupérer ses droits. Il y a une question qui se pose, c'est lorsque l'éditeur d'origine n'existe plus. Et c'est une question qui va se poser de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de faillites d'éditeurs en ce moment, en particulier beaucoup chez les indépendants. Et maintenant, ça commence à taper les éditeurs moyens. Je n'ai pas exclu d'ailleurs que de très gros éditeurs soient frappés, mais les très gros éditeurs, eux, ils disparaissent pas, ils se rachètent les uns les autres. C'est ce qui est arrivé au groupe Flammarion l'année dernière, racheté par le groupe Gallimard. Mais donc il y a beaucoup de changements comme ça, et le problème, moi je pense que c'est pas tellement à ce niveau-là que ça va se jouer, je pense, bon, vraisemblablement la société d'auteurs qui va être chargée de ça, ça va être la SOFIA. Moi je fais partie du conseil d'administration de la SOFIA, une des choses dont on discute, qu'on n'a pas, apparemment on n'obtiendra pas dans le décret, mais qu'on pourrait adopter à l'intérieur de règlement intérieur de la SOFIA, si je peux dire, c'est que les auteurs puissent se manifester auprès de la société d'auteurs globalement en disant, moi, globalement, je m'oppose à toute utilisation sans mon accord de mon œuvre. Et à ce moment-là, ça serait général pour l'ensemble des livres. Ça réglerait quand même la question auteur par auteur, bien sûr, mais ça réglerait la question, parce que, bon, je prends un exemple, moi j'ai publié plus de 100 titres, s'il faut sur 100 titres que j'aille surveiller chaque fois s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de vouloir le rééditer sans mon accord, s'il faut que j'écrive à tous mes éditeurs dont beaucoup ont disparu, c'est hyper compliqué. Alors il y a beaucoup de livres que j'avais déjà récupérés, heureusement, mais je trouve qu'il y a là, il y a un glissement, parce que je pense que le grand vice de cette loi, c'est qu'elle n'a pas vu une chose, elle a laissé passer quelque chose, c'est que on considère qu'un auteur récupère ses droits quand il fait cette démarche de lettre avec accusé de réception, lettre recommandée, etc. Avant, ce n'était pas comme ça. Parce qu'un éditeur perdait ses droits à partir du moment où il ne remplissait pas le critère numéro un pour un éditeur, qui est d'assurer ce qu'on appelle l'exploitation permanente et suivie d'un livre. Ça veut dire qu'un livre, vous êtes un lecteur, vous voulez vous procurer, vous devez pouvoir le procurer. Vous allez voir un libraire, il peut le commander. À partir du moment où ce livre n'était plus exploité, c'est-à-dire qu'en librairie, vous ne pouviez pas le trouver par l'intermédiaire de... Alors, il fallait deux libraires de deux villes différentes, hein, vous pouviez pas... Et à partir du moment où vous aviez ça, vous aviez la preuve que votre éditeur ne l'exploitait plus, sans l'être recommandé, l'éditeur était dessaisi de ce contrat. C'est ça le changement qu'a donné la loi, c'est que maintenant elle oblige l'auteur à prouver quelque chose. Alors, en termes de droit, moi je ne suis pas un grand juriste, hein, mes études de droit sont arrêtées à la deuxième année, mais il me semble que lorsqu'il y a une faute ou un crime ou un délit, il n'existe pas au moment où quelqu'un porte plainte, il existe quand il est commis. On vous vole chez vous, vous en apercevez 15 jours après. Le vol, il n'a pas lieu 15 jours après, il a eu lieu 15 jours avant. Et donc, lorsque l'exploitation permanente est suivie s'arrête, pour moi, l'éditeur en est dessaisi. Et ça, je ne comprends pas que l'ensemble des juristes qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat aient laissé passer ça. Ça, donc, c'est le principal vice de cette loi. Et du coup, on se retrouve dans des situations hyper compliquées où, à la limite, il faudrait qu'on ait un secrétariat chargé d'aller regarder. Alors, bon, la liste sera publiée une fois par an seulement. Mais ça veut dire que tous les ans, il va falloir aller regarder l'ensemble de nos titres pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui le pique.
Oui, mais en plus, maintenant, on peut imprimer sur demande, à la demande.
Hein. Oui, en plus. Oui.
Ça s'ajoute parce que votre livre, il suffit que l'éditeur fasse imprimer quelques exemplaires qui sont là, disponibles, et à ce moment-là, votre livre n'est jamais indisponible.
Oui, enfin, il y a des combines pour sortir de ça, c'est-à-dire c'est de faire des commandes, mais en fait, ça coûte des sous.
Et c'est l'auteur.
Mais c'est toujours, encore une fois, l'auteur. Tout repose sur l'auteur. C'est-à-dire qu'en permanence, on doit prouver qu'on est l'auteur d'un livre. On doit prouver qu'on n'est pas en contrat avec un éditeur. On doit prouver qu'on n'est pas d'accord que l'on publie nos trucs sans nous. Enfin, là, je pense très franchement que sur cette loi, on peut dire que le lobby des auteurs n'a pas été bon. Par contre, le lobby des éditeurs a été extrêmement efficace et le lobby de la BNF, c'est le lobby des bibliothécaires, très fort. Alors, je veux dire un mot là-dessus, parce que il y a une très forte tendance, pas seulement à la BNF, mais notamment dans des bibliothèques qui ont des fonds d'ouvrages anciens, par exemple, d'ouvrages rares, à vouloir faire évoluer le statut des bibliothèques vers un statut d'éditeur. Pourquoi on donne tant d'argent public ? Moi, je suis un ancien élu, donc je sais de quoi je parle. Pourquoi on donne tant d'argent public aux bibliothèques ? C'est que pour qu'elles assurent le prêt, la disponibilité des livres pour les gens qui soit veulent découvrir des livres sans les acheter parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, soit se donner une idée d'un auteur pour savoir quel livre elle va acheter après. C'est ça la mission de ce qu'on appelle la lecture publique. Moi, je ne suis pas sûr, et même personnellement, je suis absolument persuadé du contraire, c'est qu'on n'a pas à donner un centime d'argent public pour créer de nouveaux éditeurs. Si les bibliothèques deviennent éditrices, à mon avis, elles devront devenir des entreprises privées. Il faut bien réfléchir à cette question, qui est une question de fond, qui n'est débattue nulle part, moi que j'essaie de mettre sur la place publique, c'est que si, par exemple, la numérisation massive qui va avoir lieu, consiste simplement à mettre la disponibilité de livres sur des bornes à l'intérieur d'une bibliothèque. Pas de problème. Mais si ça consiste à pouvoir diffuser des ouvrages, et on sait très bien que derrière l'idée, c'est de les diffuser moyennant finance, c'est dit très clairement dans certains débats, on est dans une démarche d'entreprise d'édition privée, et qui pour moi ne peut plus toucher un centime d'argent public. Je le dis clairement. Moi, je participerai sans doute à des campagnes électorales nationales prochainement, et je peux vous dire que c'est quelque chose que je mettrai sur le tapis. Il faut donc bien réfléchir à ce qu'on est en train de faire. La numérisation massive, je veux bien qu'on la fasse sans l'autorisation des auteurs. Moi, je ne suis pas sûr d'en avoir envie, personnellement, mais enfin, bon, admettons, mais c'est pour un usage de prêt d'accessibilité sur place. Au-delà, c'est une dérive, et il faut bien qu'on en soit conscient. Si on se demande,
oui, on s'associe, hein, pleinement.
Pleinement. La bibliothécaire,
Ma réponse.
Non, je pense qu'effectivement, on va pas ouvrir le débat des bibliothèques.
Non, mais c'est. Il y a ça derrière la numérisation, quoi. C'est ça l'enjeu.
Il y a aujourd'hui des métiers un peu en perdition et qui sont en train de rechercher une revalorisation vers d'autres, d'autres fonctions, et tout ça n'est pas très clair. Et je pense que les bibliothèques font partie en ce moment dans une grande interrogation pour beaucoup de points, peut-être.
Voilà. Je crois qu'il y a des gens
alors,
qui ont posé des questions.
Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Alors, attendez, il y a un micro. Voilà, là. Claude est là. Non, mais on va vous l'amener.
Où les gens se déplacent, vous pouvez me le mettre là.
Non, mais il faut le donner.
J'avais juste une question naïve. Je suis pas du tout métier.
Voilà, c'est bon.
Je voulais juste savoir si, à part une histoire de gros sous, est-ce qu'il y a une autre raison intellectuelle en fait.
Il faut bien parler dans le.
On n'entend pas, excusez-moi.
J'avais juste une question très naïve. Savoir si, à part une histoire de gros sous,
À quoi ?
Au fait qu'on vole vos œuvres.
C'est suffisant.
Dans l'esprit des éditeurs, c'est clair, c'est une histoire de gros sous, bien sûr. Vous savez, ce qui gêne dans l'édition, c'est l'auteur, c'est l'emmerdeur permanent. si on n'était pas obligé de faire avec eux, parce que c'est eux qui écrivent les livres, l'édition s'en passerait très bien. D'ailleurs, parfois, elle s'en passe. Donc, s'il y a beaucoup de non-livres qui paraissent, il faut quand même le dire. Donc, non, il y a, bien sûr, il y a une histoire de gros sous là derrière. Alors, faut pas non plus être trop manichéen. Il y a des gens qui pensent que numériser l'ensemble des ouvrages existants est une entreprise de service public. Ça se défend parfaitement. Moi, j'ai rien contre ça. Je suis simplement interrogatif sur le fait que, depuis que le numérique existe, les techniques de transmission changent à peu près tous les 3 ou 4 ans. Moi, en tant qu'auteur, je tapais à la machine à écrire mécanique quand j'étais jeune, puis je suis passé à la machine électrique, puis à la machine électronique, puis électronique avec petit écran et correction, puis après je suis passé à l'ordinateur. Et quand on m'a dit, mais tu sais, tu peux conserver toute ton œuvre définitivement, c'est formidable, on m'a fait faire des disquettes, puis après on m'a dit, mais c'est obsolète, les disquettes, il faut que tu fasses des zips. Et vous vous souvenez, les zips, ils ont été obsolètes au bout de 2 ans. Après, on nous a dit, il faut que tu mettes ça sur des CD, qui ont été obsolètes au bout de 3 ans. Et puis après, on nous a dit qu'il fallait les mettre sur des clés USB, qui sont en train de devenir complètement obsolètes. Maintenant, on les met sur des disques durs externes, qui vont devenir obsolètes. Maintenant, on dit que tu n'as qu'à mettre ça sur le cloud, qui sera obsolète. Et donc, moi, je me dis, les milliards, c'est les milliards qu'on va dépenser pour la numérisation. Est-ce qu'on est sûr que cette numérisation sera éternellement efficace par rapport à l'évolution technologique des moyens de transmission? Personnellement, j'en doute très fort. Et par ailleurs, qu'est-ce qui garantit un auteur? Je pense en particulier dans le monde de l'illustration et de la bande dessinée, donc pour mes amis de la charte. Qu'est-ce qui garantit que cette numérisation est de qualité parfaite? On a vu avec Google des numérisations totalement bâclées. Or, les accords BNF-Google m'inquiètent beaucoup personnellement. Et donc, qu'est-ce qui garantit que la qualité va être bonne et que ce qui va être transmis de cette manière-là, sans contrôle de l'auteur, des auteurs, va être d'une qualité qu'il estime ne pas violer son droit moral? Ça, je demande. Et comment ça va se transmettre quand la technologie évolue à partir d'une numérisation qui va être toujours la même? Ou alors, est-ce que ça veut dire que tous les 10 ans, on va tout renumériser à nouveau avec les mêmes dépenses d'argent public? Donc, toutes ces questions-là, je ne les entends jamais dans la bouche de ceux qui disent « c'est merveilleux, toute la culture va être disponible, etc. » Bon, moi, j'ai créé un organisme qui s'appelle le MOTIF, qui est l'organisme du livre de la région Île-de-France. J'ai pu faire des enquêtes à l'époque, des études sur qu'est-ce que les gens consultent numériquement en matière de livres. Parce que on me dit, par exemple, toute la culture du Moyen-Âge, c'est incunable, introuvable, c'est numérisé, c'est formidable, tout le monde peut les consulter. C'est que personne ne les a jamais consultés, à part quelques profs d'université qui travaillent dessus. Les gens, qu'est-ce qu'ils téléchargent, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Les best-sellers. Les mangas qui marchent le mieux, les prix Goncourt, tout ce qu'on peut trouver en livre de poche pour 3 ronds. Donc ça ne servait absolument à rien de dépenser toutes ces sommes pour dire on va mettre la culture à disposition des gens. La seule exception à ça, alors ça c'est un paradoxe, c'est par exemple les grands philosophes, les grands scientifiques sont super consultés, mais c'est uniquement par les élèves des universitaires. Donc il y a une consultation universitaire qui est réelle et qui là montre une vraie demande à laquelle il faut répondre. Mais en dehors de ça, c'est les best-sellers. Donc, et puis pas toujours les best-sellers littéraires, si vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est comment se faire des amis, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a énormément de fantasmes derrière toutes ces questions qui sont agitées. Et moi, je pense que, alors parce que j'ai aussi donc une casquette d'ancien élu, de quelqu'un qui distribuait de l'argent public, où doit-on mettre l'argent public là-dedans? Et je pense que si on en mettait un peu pour aider les auteurs, par exemple, en les faisant accéder au statut d'une intermittence comme les interprètes, ça aiderait les auteurs qui, par exemple, consacrent 4 ans à écrire un livre sans un centime, ou à des auteurs qui n'ont pas vu publier leur dernier roman ou qui ont connu un échec, de pouvoir continuer à exercer leur métier de manière digne, comme le font les comédiens, comme le font les musiciens. Je pense que ça aurait été pas trop con.
Tout à fait d'accord, Yves. Toi, tu parles de la qualité de la numérisation.
Ouais.
Effectivement, c'est un problème. Il y a également autre chose. Comme vous le savez peut-être, le Conseil permanent des écrivains négocie depuis quelque temps, renégocie au bout de quoi, 8 ans ?
Je ne sais pas.
Hein? Oui. Alors, renégocie. Non, négocie avec le syndicat national de l'édition. Et il s'agit du contrat numérique. Ces négociations ont commencé il y a plus d'un an et demi, il me semble, se sont arrêtées au mois de mai dernier.
Ouais.
Et ce n'est certainement pas sur l'initiative du Conseil permanent des écrivains. Les négociations ont repris, parce que tel était le vœu ardent du ministère de la Culture. Elles sont actuellement en cours, mais loin d'être terminées. Voilà. Il y a, sur le fond de cette numérisation, un autre problème que nous avons très bien vu, c'est que la plupart des éditeurs ne savent même pas quel sera, et ne peuvent pas le savoir, quel sera le modèle économique.
Il n'y en a pas pour moi.
Voilà, il n'y en a pas. Hein. Comment est-ce que ce sera diffusé ? Par abonnement, avec publicité ou non ? La réponse est claire, hein, je pense.
Oui.
Voilà, par streaming, on ne le sait pas du tout. D'où aussi leurs hésitations. Qu'on peut à la rigueur comprendre, mais nous on est dans le même cas. Hein. Ce n'est pas une raison pour bloquer les négociations.
Oui.
Il y a une question de pourcentage de droits aussi qui est très importante là-dedans. C'est-à-dire que, en gros, les éditeurs sur le LSFR nous proposent les mêmes droits que pour le papier. Pour quelque chose qui leur coûte vraiment pas grand-chose à numériser, ça ne coûte pas cher. Ils veulent vendre très cher, ils veulent continuer à appliquer les prix du livre alors qu'il n'y a plus de livre. Il y a un tas de choses inacceptables dans la proposition de l'USN. Bon, les droits papier, c'est 8%.
Excuse-moi, enfin, en littérature jeunesse, c'est moins. Entre 4 et 8, 6.
En théorie, et encore, c'est 8.
Hein. Et en beau livre, c'est 2.
C'est rarement plus.
Oui, c'est des droits à payer sur.
Sur les images,
les éditeurs essayent de faire des efforts en se disant qu'ils proposent entre 8 et 13. En gros, certains proposent entre 8 et 13, mais c'est aussi inacceptable
au tout début de la question, Hachette avait proposé de donner 2% aux auteurs.
Ouais.
Aujourd'hui, vous avez des plateformes comme Amazon et des trucs comme ça qui en sont à proposer 70% aux auteurs. Directement. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille discuter avec des éditeurs qui nous parlent de 20%, 30%? Mais non, il vaut mieux vendre nos trucs à Amazon qui nous filera 70%, quel que soit le manque de sympathie qu'on peut avoir.
Ou de numériser nous-mêmes, c'est-à-dire
des
coopératives, etc.
Cela dit, quel que soit le moyen, il n'y a pas d'économie. C'est-à-dire que le net, c'est quelque chose qui est parti sur. Disons, dans tous les pays du monde, les autorités ont laissé absolument le truc se développer tout seul sans jamais y réfléchir parce qu'ils n'y comprenaient rien. Le résultat, le net est devenu le lieu des échanges gratuits. Et donc, pour pouvoir mettre de l'économie, c'est-à-dire des choses qui permettent que le travail des gens soit payé sur le net, c'est quasi impossible. À mon avis, il faudra 20 ou 30 ans pour y arriver. Et donc, pour le moment, il n'y a pas d'économie. C'est-à-dire que bien sûr, tu as raison, Christian, quand tu dis on peut mettre nous-mêmes en téléchargement nos bouquins, bien sûr, mais il sera téléchargé par Peanuts. Ça ne rapporte rien. Alors que tu publies chez un petit éditeur qui n'a pas beaucoup de moyens, il va quand même vendre quelques centaines d'exemplaires de ton bouquin, touchant à 3 sous, quoi, tu vois. Et la plupart des gens qui sont éditeurs de numérique, sauf des trucs très 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 précis, en général, ça, pour l'instant, il n'y a pas d'économie. C'est aussi pour ça que les éditeurs sont réticents, parce qu'on leur reproche de ne pas mettre leur catalogue accessible en ligne. Mais pour mettre le catalogue en ligne, ça fait quand même des coûts, hein, ça. Et il n'y a pas de rentrée. Alors donc, pour l'instant, ils attendent que l'économie arrive. Mais tant qu'ils ne le font pas, il n'y aura pas d'économie. Donc c'est un serpent qui se mord la queue, et pour l'instant, ça ne bouge pas, quoi. Ça n'a pas bougé depuis 10 ans, en tout cas. question.
Une question et une remarque. En fait, en tant que bibliothécaire, je comprends mieux pourquoi on vous dit il faut que vous ayez des livres numériques. Oui, très bien, où est-ce que je les achète? Je suis en marché chez Machin, donc Machin ne peut pas m'obtenir, enfin, ne serait-ce que pour la production papier. En étant coincé en marché avec un fournisseur donné, ce fournisseur ne peut pas me fournir certains titres que je lui demande parce que c'est chez un petit éditeur, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Donc voilà, j'ai déjà ce problème, je dois contourner le marché avec une certaine somme, etc. Avec du livre numérique, c'est encore mieux parce que là, pour l'instant, il y a une offre qui est maigre et qui est très très chère. Et nous, on ne peut pas... bon, en plus, on a le souci du support technique, c'est-à-dire qu'il y a des... Ça va faire comme pour les CD-ROM. À l'époque, les CD-ROM, tout le monde voulait des CD-ROM, et tout le public voulait des CD-ROM, donc on en a acheté. Puis ensuite, on s'est mis à avoir des droits dessus, parce que c'était un manque à gagner pour, forcément, pour les auteurs. Donc, payer des droits. Puis ensuite, les constructeurs de machines, ben, ils ont fait des machines un peu plus performantes, mais les éditeurs de CD-ROM, ils ont fait ils ont pondu des galettes qui tournaient pas sur les nouvelles machines, ou certaines qui tournaient, il fallait faire des manips, etc. Donc c'est bon, la poule aux œufs d'or comme ça, en lui enlevant les mains. Mais le problème avec le livre numérique, c'est que nous, en tant que bibliothécaires, nous sommes coincés aussi à ce niveau-là. Quoi. On voudrait bien en acheter. Il y a le public qui nous dit « Ah, nous, on a des liseuses, on voudrait bien télécharger. J'ai eu une liseuse à Noël, j'ai eu une tablette, on voudrait bien télécharger des bouquins. » Et nous, pour l'instant, on est un peu coincés. Alors bon, je vais faire une proposition iconoclaste. Je vais dire « Les éditeurs, ils veulent pas bouger, les auteurs veulent bouger, les bibliothécaires veulent bouger, en tout cas. » Et nous, on n'a pas... vous n'avez pas de sous et nous non plus, donc ça va être... Enfin, si on a un budget quand même pour acheter, donc...
Alors, cela dit, vous savez que vous parlez des marchés. Il faut expliquer que les bibliothèques ont pensé pendant longtemps qu'elles étaient obligées de passer par une procédure de marché public pour acheter des livres. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Le motif vous expliquera dans le détail comment vous en passez dès demain, franchement. Il n'y a plus aucune raison que les bibliothèques passent par les marchés publics, aucune. Donc, oubliez les marchés publics, commandez les livres que vous voulez, consultez le motif, vous expliquera comment faire. On a fait des tournées dans toutes les bibliothèques d'Île-de-France pour expliquer ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que sur les histoires de tablettes, de liseuses, etc. D'ailleurs, le motif a fait aussi les premières expériences de prêt de liseuses en bibliothèque. Notre contre-vente. Sur ces nouveaux outils, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe déjà? C'est qu'on vous propose des catalogues. Alors, on vous dit des catalogues pour une somme extrêmement modique. Vous avez accès à un catalogue gigantesque. Si demain, vous devez payer des droits d'auteur normaux aux auteurs qui ne se laissent pas faire par ce système-là. Au lieu de payer, par exemple, 5 euros par mois, parce que ça tourne un peu autour de ça, mais c'est 10 000 euros par mois qu'il faudrait que vous payiez pour que les auteurs soient payés normalement. Vous mesurez ça. Nous, on est en train de nous proposer de mettre nos trucs dans des catalogues en disant, sur un livre papier, vous touchez, par exemple, 2 euros. Sur une consultation ou une lecture numérique, vous allez toucher 0,302 centimes. Vous me prenez pour qui? Il y a écrit quoi là? Il y a écrit pigeon? Jamais! Alors moi je me tue à expliquer ça, y compris à des amis sympathiques, y compris des gens très proches, et notamment à beaucoup d'élus, que la licence globale dont ils rêvent, la licence globale, c'est tout le monde paye 10 000 euros par mois. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas nous proposer, à nous, d'être payé quelques virgules de centimes pour lire notre livre. C'est hors de question. Hors de question. Vous allez proposer ça à qui? Vous allez proposer ça aux marchands de bagnoles, qu'on achète une bagnole pour 10 centimes, pour 3 euros? Ça viendrait à l'idée de personne de proposer ça. Eh bien, ça vient à l'idée de proposer ça aux auteurs. Voilà où on en est.
Une question là-bas. Merci.
Vous voulez dire dire en... en...
Oui.
Ah oui, alors, en e-book, en e-book. Oui.
Oui, oui.
Mais les e-books, c'est déjà fini, c'est déjà obsolète. Ils ont été tués par les tablettes. Ça va disparaître, vous n'en aurez plus dans 2 ans. Ouais. Les liseux. Ouais. Mais la raison, c'est parce qu'ils n'en vendent pas, donc ils les mettent à un prix astronomique. Quand vous vendez très peu d'exemplaires... Mais vous les paierez le même prix que les autres, hein, rassurez-vous, simplement l'argent tombera dans la poche de l'éditeur et comme on n'identifie pas l'auteur, vous les paierez de la même manière. Mais franchement, moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas de solution. Tout le monde dit, si tu remets tout le monde autour de la table, on va trouver une solution. Il n'y a pas de solution. Ça fait plus de 10 ans qu'on y réfléchit. Il n'y a pas de solution pour que massivement les gens... pour 3 sous est accès à l'ensemble de la culture du monde et qu'en même temps, les gens qui la fabriquent, cette culture, gagnent leur vie. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Pas la peine. Si les gens ne comprennent pas que faire un livre, un disque, un film, c'est un travail colossal. Pour le livre, c'est un travail un peu solitaire, pour les films, ou les trucs, c'est un travail collectif, mais c'est un travail colossal qui prend des mois, des années. Moi, j'ai des romans qui m'ont pris 15 ans pour les écrire. Vous ne me rémunérerez jamais pour ça. Quel que soit le succès de mon livre, on ne me paiera jamais toutes ces œuvres. Je veux quand même qu'on me les paie au moins un peu. Et si on me dit « ton œuvre vaut moins que 1 centime », on m'injurie. Mm. On m'injurie. Donc voilà, je pense que les auteurs ne vont pas se laisser insulter comme ça en permanence. On a laissé passer la loi sur les indisponibles. Je crois que ça va nous servir de leçon pour les suivantes, je peux vous dire.
Où en sont les... Une question de la tribune. Il y a eu des essais, des premiers travaux de coopératives d'auteurs qui ont mis en ligne leur livre. Yardal en avait parlé, avait fait une annonce aux Imaginales l'an dernier, etc. François Bon avait lancé un label, etc. Où ça en est, ça?
J'ai l'impression que ça en est nulle part. Je ne sais pas, s'ils ont publié ou pas encore, ou s'ils sont encore en train de voir ce qu'ils ont à publier. Ça n'avance pas vite. Maintenant, il y a des boîtes qui font du numérique, comme ActuSF, qui ne sont pas des structures coopératives et tout, mais qui, eux, commencent quand même à mettre en ligne des textes.
Bragelonne,
Bragelonne, c'est un éditeur.
Ça avait bien marché, ça.
Par avec TSF aussi, ça.
Mais très franchement, dans la continuité de ce que je disais il y a 5 minutes, je pense que comme il n'y a pas d'économie, ces plateformes marcheront, ces plateformes coopératives, disons, ne marcheront pas mieux que le reste. L'intérêt, à mon avis, principal, c'est pas de créer une espèce de marché parallèle à ces livres écrits. Son principal intérêt, à mon avis, c'est que si tu mets en ligne toi-même ou par une coopérative un roman, par exemple, ou un bouquin, tu peux aller voir ton éditeur après, ton éditeur papier, et lui dire « Ah ben, je ne peux pas te céder les droits numériques parce que je suis déjà...
Voilà. »
Ils sont déjà édités. C'est le principal intérêt. C'est le principal intérêt. C'est d'expliquer aux éditeurs que non, les droits numériques, ils ne les auront pas automatiquement.
Et même sur les anciennes parutions...
Oui, ceux où il n'y avait pas de clause numérique dans ton contrat, tu peux faire ça.
C'est ça, c'est un gros chantier à négocier. Ça,
ça fait objet des négociations actuelles.
Dans un premier temps, ils diront, ah ben, si je n'ai pas les droits numériques, je ne fais pas les droits papier. Évidemment, il faut tenir bon. Parce qu'on l'a fait pour l'audiovisuel autrefois, si je n'ai pas les droits cinématographiques...
Ce que nous avons obtenu pour l'instant, c'est que dans un contrat d'édition, La partie numérique est à part. Ouais. C'est-à-dire, on n'a pas obtenu un contrat à part, comme c'est le cas pour l'audiovisuel, mais c'est une partie à l'intérieur du contrat qui est à part. Parce que jusqu'ici, dans les contrats, c'était un mélange, mais incompréhensible. Mais c'est vrai, hein, il y avait... Voilà, et maintenant, c'est plus clair. On en est là.
Moi, je sais que lorsqu'un éditeur me dit « Moi, je veux absolument les droits numériques, si je ne les ai pas, je ne signe pas le contrat », la réponse que je fais, c'est de dire « Bon, d'accord. Mais alors, tu vas détailler très précisément de quel droit numérique il s'agit. Qu'est-ce que tu fais ? Et sur chaque droit, je veux savoir quel est mon pourcentage et quel est mon avaloir. » C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Je vais être sur une tablette, je vais être dans un... Parce que droit numérique, ça ne veut rien dire. Mais rien, 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 ça n'a pas de sens. Le sens, tiens, ça y est, c'est le ministère qui m'appelle pour me dire... On a besoin de toi. Sur le numérique, il peut y avoir toute une tapée de droits qui n'ont rien à voir entre eux, qui ne signifient pas du tout le même type d'exploitation, ni le même type d'économie. Donc, qu'est-ce que je gagne là-dessus ? Quel est mon... À quoi est-ce que je peux m'opposer à certaines exploitations et pas à d'autres ? Parce qu'il y a des exploitations qui peuvent ne pas me plaire. Hein. Voilà, c'est mon droit, c'est ça le droit moral. Et quand on leur demande de détailler, ils disent « Bon, d'accord, allez, on raille. »
Oui, il y a ça.
Parce qu'ils n'en ont pas la moindre idée eux-mêmes. Ouais.
On va terminer là, si vous voulez faire une petite conclusion. Est-ce qu'il y a une question d'abord ?
Si, vas-y.
Si, vous pouvez la poser.
Vas-y.
Je vais essayer de parler fort. L'AGESSA, c'est très compliqué. Il y a des auteurs qui paient régulièrement des cotisations à l'AGESSA et qui n'ont pas le droit d'être affiliés. Ah, si. C'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, il y a des auteurs qui ne sont donc pas affiliés à l'AGESSA, mais qui peuvent parfaitement aller dans des classes. Il y a une lettre modèle qui a été diffusée par la Société des gens d'aide, c'est effectivement issu de cette loi, mais ils n'ont pas obligation d'être à l'AGESSA pour pouvoir intervenir dans les classes et être payés sur facture.
Et vous avez parfaitement raison, madame. Il ne s'agissait pas du tout du fait d'aller dans les classes, et parler de son œuvre. Ça, tout le monde a le droit de le faire.
Hein,
sans aucun problème. Ce dont il s'agit, ce sont par exemple des ateliers d'écriture.
Non, je parle d'ateliers d'écriture.
Ah non. Ah non, non, non. Non, relisez. Parce qu'il faut qu'un auteur soit affilié. Pour être affilié à l'AGESSA, il faut atteindre un certain plafond de revenus, le plafond, non, on ne l'atteindra jamais. Un certain plancher qui tourne autour de 7 000, 7 500 euros, enfin, il faudrait que je vérifie.
Oui, j'ai
assisté aux négociations sur ce sujet.
C'est pas clair sur le rendu, et il faut qu'on fasse part à la SGDL aussi. Hein.
Pardon ? Non, j'ai pas entendu.
Je veux dire que c'est pas clair sur l'application, c'est ce qui est sorti des négociations. Et il faut informer la Société des gens de lettres de ce que vous êtes en train d'expliquer.
Non.
Que c'est pas le message qui est véhiculé.
La Société des gens de lettres était une des parties qui a fait démarrer ces négociations. Donc, voilà. Le texte, à mon avis, est parfaitement clair. Il faut être affilié pour avoir le droit à des rémunérations accessoires. C'est comme ça que ça s'appelle. Qu'elles soient considérées comme droit d'auteur. Si vous n'êtes pas affilié, vous n'êtes pas autorisé à faire des ateliers d'écriture.
Ce qui est un recul. Il faut bien voir, c'est un recul. Parce que jusqu'ici, comment ça se passait ? C'est qu'en général, les auteurs passaient par l'intermédiaire d'une association qui les rémunérait en droit d'auteur. Moi, personnellement, je ne suis pas affilié. Mm-hmm. Je suis pas affilié. Je suis dans la presse, par ailleurs. Je continue comme avant. Je passe par mon association. Mon association me rémunère en droit d'auteur, point. C'est ce qui va se passer pour les gens qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Simplement, je pense qu'on a voulu là-dedans, à l'origine, l'idée c'était que une pression forte des auteurs pour qu'on accepte de considérer comme comptabilisé pour la sécurité sociale les ateliers d'écriture, les débats, les choses qu'ils faisaient. Bon, il y avait cette pression. Alors, ils ont voulu donner satisfaction, mais en même temps, en évitant le fait qu'il y ait des gens qui ne vivent que des ateliers d'écriture sans jamais écrire de livre. C'est tout à fait légitime. Ça ne me choque pas, moi, personnellement, comme idée. Maintenant, le problème est que derrière ça, on a cherché à faire que les gens qui n'étaient pas affiliés ne puissent pas bénéficier de prestations qu'ils font sous forme de droits d'auteur. Et ça, c'est un recul. Pour les non-affiliés, c'est un recul. Pour les affiliés, c'est une avancée. C'est ça le problème. Alors, moi, le conseil que je donne à tous les auteurs qui ne sont pas affiliés, c'est de faire comme avant, passer par une association.
Mais on n'en veut pas. Ils ne peuvent pas être affiliés. Ils paient sur chaque intervention d'atelier d'écriture. Il y a des droits prélevés pour la GSA, mais oui. Ils n'ont pas le droit d'être affiliés à la GSA, parce qu'ils ont par ailleurs...
Ah ben oui.
Ce sont pour les ateliers d'écriture ou pour les livres, c'est la même chose. Hein, vous avez, sur les gens qui écrivent, il y a 5% qui sont affiliés à la GSA.
Ben oui.
Il y a 95% des auteurs qui payent effectivement leur sécu maladie et compagnie, qui est prélevé directement par l'éditeur, hein, qui payent ça à la GSA, ça ne leur ouvre aucun droit.
Hein. Oui, mais ça, c'est la solidarité classique en matière de droits sociaux. Hein. Ouais, c'est pas particulier. Pour le chômage, c'est pareil.
Après, pour les auteurs qui sont affiliés, qui veulent avoir droit à la sécu, il faut qu'ils payent leur cotisation retraite.
Ouais.
Alors que, par exemple, dans les régimes indépendants de libéraux, tu payes ta sécu, tu payes tes cotisations maladie, tu as droit à l'assurance maladie. Donc, il y a quand même des choses pas très...
On paye beaucoup plus.
Du côté politique, on a voulu voir, c'est que un créateur, pas seulement un auteur, mais un créateur dans l'ensemble, l'immense majorité des gens qui pratiquent ces métiers sont des gens qui sont des professionnels à temps partiel. C'est-à-dire que beaucoup, pour gagner leur vie, sont obligés de faire un truc à côté, qui parfois est le principal. Ne penser leur statut que pour les gens qui sont professionnels à temps plein, pour les auteurs, je ne sais même pas si c'est 5%, c'est peut-être 2%. On est très peu, on n'est pas 500 en France. Bon. Et en plus, sans compter qu'il y en a qui travaillent de temps en temps un peu dans la presse, des machins, ils ont un autre statut. Et que l'unicité de notre profession, qui est une de nos revendications depuis toujours, c'est-à-dire le fait que quoi qu'on fasse, on a le même statut, c'est une chose que personne ne veut entendre nulle part. Pourtant, alors je prends un exemple qui est toujours très amusant, puis ça va être la conclusion, parce que je crois qu'il faut qu'on conclue. Imaginons, j'écris une nouvelle de science-fiction. Je la publie dans une excellente revue de science-fiction qui me rémunère. J'ai un statut. Je la publie ensuite, ou mieux, non, je vais la publier dans la presse, par exemple dans Libération ou dans Le Monde, ou dans Le Figaro. Je vais être payé en pige, donc assimilé salarié. Cette nouvelle va être choisie comme une des 10 meilleures nouvelles de l'année dans l'anthologie des 10 meilleures nouvelles de l'année. C'est un ouvrage collectif, je vais être payé au forfait, en droit d'auteur. Ensuite, je la mets dans un de mes propres recueils à moi. Là, je suis payé au pourcentage, en droit d'auteur. Mais un jeune cinéaste plein d'allant et qui a beaucoup de flair comprend que ma nouvelle est extraordinaire, va faire un formidable film, décide de l'adapter. J'ai un autre statut. Et puis, évidemment, bien entendu, au passage, en voyant cet excellent film qu'a fait ce jeune homme, un autre jeune homme plein d'allant dit « Mais ça ferait un formidable spectacle au théâtre. » Et l'adapte au théâtre, je change encore de statut. C'est pas tout. Il y a un jeune agent étranger qui se rend compte que ma nouvelle est vraiment formidable et décide de la publier en allemand, en italien ou en péruvien. je vais encore changer de statut parce que la loi est différente dans ces pays-là. Puis là-bas, évidemment, il y aura des jeunes gens pleins d'allants qui voudront faire un film péruvien ou une pièce de théâtre allemande et je changerai encore de statut. Alors, je ne vous dis pas ce qui va se passer quand tout ça va être numérisé. Parce que chaque numérisation du film, de la pièce de théâtre, de la nouvelle, c'est des statuts différents. Devient complètement fou. Et alors, si je décide évidemment de jouer moi-même le rôle principal du héros de la nouvelle dans le truc, le statut d'interprète, donc, on est dans la folie furieuse. On est dans la folie furieuse. On a fait l'Europe maintenant, il y a quand même un certain nombre de dizaines d'années. Moi, je suis un ancien parlementaire européen. Je vais essayer de mettre ces questions dans la. Parce que depuis Maastricht, on peut. Hein, les questions culturelles peuvent rentrer là-dedans. L'Europe s'est jamais emparée de ça, d'essayer de faire une unification du statut des artistes. Dans l'Europe, enfin, je veux dire, on est vraiment complètement sur la tête. Quoi. Donc, vous voyez, les chantiers pour un syndicat ou pour une association de défense professionnelle ne manquent pas. On a beaucoup de travail au Conseil permanent. Et...
Ah, elle est partie, la sorcière en chef.
Oui.
Une post-conclusion.
Oui.
Je vous conseille vivement.
Ah oui.
La dernière brochure éditée par la Charte des auteurs illustrateurs qui s'appelle Le contrat dont vous êtes le héros. Comment négocier seul dans la forêt avec un dragon ébarré, avec un éditeur. C'est hyper drôle, c'est très utile et ça vaut pour tous les contrats. Alors vous pouvez le
télécharger. Mais il n'y
en a plus. Non, vous pouvez télécharger sur le site de la Charte si vous voulez vivre un bon moment avant de vous adresser à votre éditeur. Et je vous laisse également des brochures de présentation de la charte. La charte, d'ailleurs, qui est à l'origine du tarif des interventions des auteurs, qui maintenant est monnaie courante, si j'ose dire, pour tous les auteurs de littérature générale aussi. Et également une autre brochure hilarante, le contrat d'édition al dente sous forme de petits livres de cuisine. Voilà.
Recettes.
Oui, c'est des recettes, oui.
Merci à tous.
Merci.